Bonjour à tous. Bonjour. Alors je vais commencer par une petite question, même deux. La première, qui d'entre vous parle allemand?
Ein bisschen.
Plus compliqué. Qui d'entre vous parle latin? Ein bisschen, d'un seul coup, il y a moins d'enthousiasme. Hein. Latin. Alors j'en souviens, j'ai fait un peu de latin en 6e et 5e et j'ai appris mes déclinaisons rosarum, rosarum, et vous en souvenez peut-être. Si chacun d'entre nous parlait latin, bon, j'aurais pas fait ma prédication en latin, je vous rassure, mais j'aurais pu vous dire que ce matin, nous allons regarder le texte biblique dit du Benedictus. Bon, personne d'entre nous parle latin, mais Benedictus, en tant que francophone, on arrive à reconnaître qu'est-ce qui se cache derrière le Benedictus. Benedictus, c'est le nom que la tradition a donné au cantique de Zacharie en Luc 1. Le cantique de Zacharie, on l'a appelé le Benedictus. Alors juste avant le Benedictus, il y a le Magnificat, le cantique de Marie, que aussi la tradition a nommé comme ça. Et donc après le Benedictus, pourquoi Benedictus? Béni, bénédiction. Parce que ce cantique que Zacharie prononce commence, verset 68, par « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » D'où le terme de Benedictus. La semaine dernière, nous étions le premier dimanche de l'Avent, et Bernard Rousseau de Carpentras était venu déjà nous amener du côté du début de l'évangile de Luc. Alors, deux dimanches de suite sur le début de l'évangile de Luc, vous allez me dire, ça fait beaucoup. Mais on va avoir une approche un peu différente. Bernard Rousseau, sur l'évangile de Luc, avait montré comment tous les grands éléments de notre foi étaient déjà présents dans le tout début de l'évangile. Et il avait pour ça survolé Luc 1 et Luc 2 avec différents passages. Et quant à moi, je vous propose de zoomer sur un petit passage sur ce fameux cantique de Zacharie dit du Benedictus. Et promis, j'ai fini avec le latin. Promis, maintenant on va finir en français. Donc avant de lire ce texte donc de Zacharie, donc du verset donc Luc 1, 67 à 79, juste quelques mots de contexte pour un peu, voilà, pour mieux situer ce passage. Donc on est avec un couple qui s'appelle Zacharie et Élisabeth. Zacharie, c'est un prêtre parmi d'autres qui fait son service au temple. Et sa femme, Élisabeth, est la cousine d'une certaine Marie. Jusqu'à ce moment-là, c'est des personnages comme vous et moi. Sauf que Zacharie et Élisabeth sont tous deux âgés et ils n'ont pas d'enfants. Versets 6 et 7 de Luc 1 nous dit « Tous deux étaient justes devant Dieu, ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. » Voilà la situation. Une situation, je veux dire, banale d'une certaine manière, probablement à l'époque. Alors un ange vient annoncer à Élisabeth et Zacharie qu'un fils va naître, et Zacharie, il est incrédule. Comment c'est possible? Nous sommes trop âgés, sous-entendu, ce n'est pas possible. D'ailleurs, quel contraste avec Marie. Vous vous souvenez, Marie qui va dire, quand l'ange va lui faire cette révélation, elle va pas dire, comment ça va se faire? C'est pas possible. Elle va dire, je suis ta servante, que ta parole s'accomplisse pour moi. Quelle différence. Dieu rend Zacharie, en tout cas, muet et sourd à cause de son incrédulité. 9 mois plus tard, bingo, un fils naît et Zacharie le nomme Jean. Zacharie retrouve la parole et bénit immédiatement Dieu. Verset 64. Ses premiers mots sont pour Dieu. Ils sont pas pour son fils, ils sont pas pour sa femme. Les premiers mots sont pour Dieu. Et Zacharie ne reproche pas à Dieu d'avoir été rendu muet, mais sans rancune, il loue Dieu et le bénit pour ce fils qui vient de naître. Et un tel miracle étonne les personnes autour. Le fait de voir Zacharie muet pendant 9 mois et d'un seul coup retrouver la parole et bénir Dieu, ça étonne de nombreuses personnes qui demandent alors, verset 66, « Mais qui est donc cet enfant ?» Qui est donc cet enfant qui vient de naître? Et on en arrive alors à notre texte du jour, et je vous propose de lire donc versets 67 à 79. versets 67 à 79 de Luc 1. Je lis dans la version second 21. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et il a racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son sauveur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit prophète, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Tout cela pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Voilà le cantique de Zacharie. Zacharie prophétise donc, on voit, prophétiser en ces termes, donc non par lui-même, on ne prophétise jamais par soi-même, mais par le Saint-Esprit qui est en nous. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Cela signifie autant rappeler des paroles de Dieu qui ont déjà été précédemment dites dans le passé que de dire des paroles pour ce qui va se passer dans le futur. Prophétiser, c'est les deux, c'est vers le passé, pour le présent et vers le futur. D'ailleurs, les deux tiers du cantique que nous venons de lire sont une analyse pleine de discernement de ce que Dieu est en train de faire maintenant et de ce qui est en train de se passer maintenant est conforme à ce qu'il y a eu dans le passé. Et seulement un tiers concerne le rôle futur de ce que du rôle à venir de Jean-Baptiste et de Jésus. Alors de ce cantique, je vous propose de tirer trois questions auxquelles nous apporterons trois réponses. Vous avez le plan normalement au dos des feuillets qui vous ont été distribués. Les trois questions qu'on va se poser, ça va être pourquoi Dieu nous sauve-t-il en Jésus ? De quoi nous sauve-t-il en Jésus ? Et pourquoi nous sauve-t-il en Jésus ? Pourquoi, de quoi, pourquoi ? Ah, j'en suis fier de celle-là. Pourquoi, de quoi, pourquoi ? Première partie. Pourquoi Dieu nous sauve-t-il en Jésus ? Pourquoi Dieu a-t-il décidé de nous visiter ? Pourquoi Dieu a-t-il décidé de nous racheter ? Quand on sait ce que ça lui a coûté à la croix, et ça nous a été rappelé tout à l'heure avec Marc-Étienne, quand on sait la fin de la vie de Jésus, la souffrance qu'il a eue, on se demande pourquoi Dieu a tenu à envoyer son propre fils en tant que sauveur. Pourquoi ? Le psalmiste dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'en soucies ?» Pourquoi Dieu a donc-il décidé de nous sauver alors que ça lui a tant coûté ? Zacharie, inspiré par l'Esprit-Saint, je l'ai dit, nous apporte deux éléments de réponse. Le premier, c'est que Dieu nous sauve par bonté, grâce à sa bonté, premièrement. Verset 72, regardez avec moi, Luc 1, 72, « Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. » Il manifeste sa bonté. Versets 77 et 78, Jean-Baptiste sera là pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, virgule, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Voilà la raison première du salut que l'on a en Jésus-Christ. Dieu est bon, fondamentalement, pleinement, véritablement, totalement. Tout en lui est bonté. Il n'y a pas une ombre qui ne soit pas bonté. C'est-à-dire que tout ce qui fait, tout ce qui décide, tout ce qui prévoit, ça fait preuve d'une bienveillance active envers sa création et en particulier envers l'homme. Et il désire que tout lui apporte le bonheur. Sommes-nous pleinement convaincus de la bonté de Dieu ? Ou alors on se dit que Dieu, en moyenne, il est bon ? Non, sommes-nous convaincus de la totale bonté de Dieu ? Chacune de ses décisions, chacune de ses actions est motivée par sa bonté, pour sa gloire et pour notre bonheur. Alors évidemment, bonheur n'est pas à comprendre comme un bien-être matériel immédiat, paisible, mais comme une vie à sa ressemblance et en sa présence éternelle. Et c'est pour cela, dans cet objectif-là, que Dieu a décidé de nous visiter et de nous racheter en Jésus. Il savait que notre bonheur, en sa présence éternelle, passait par là, c'est-à-dire par la venue d'un puissant sauveur en Jésus-Christ. Donc pourquoi Dieu nous sauve-t-il ? Premièrement, nous l'avons vu par bonté, car Dieu est bon. Gardons cette vérité-là dans nos cœurs, et n'en doutons pas un instant. Deuxièmement, si Dieu a effectivement envoyé Jésus, c'est par fidélité. Par fidélité. Verset 70, regardez avec moi. C'est Zacharie qui dit, c'est ce qu'il avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Verset 73, il se souvint de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Verset 74, il avait juré de nous délivrer de nos ennemis. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Ésaïe dit, quoi, Dieu dit par la bouche d'Ésaïe en Ésaïe 46, ce que j'ai dit, je le ferai, ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. C'est un verset qui est accroché dans la salle d'à côté au dos et que les enfants apprennent par cœur. Nous aussi faisons de même. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Dieu a dit qu'il enverrait un sauveur, il le fait, même si ça lui coûte. Et Zacharie, comprenant le sens de la naissance de son fils qui vient de naître et de celle à venir du fils de Marie, qu'il ne connaît pas encore, mais l'Esprit Saint lui révèle qui il est, quand il voit ce qui se passe, il s'empresse de faire le lien avec ce que Dieu avait promis. Et de montrer, voilà, on va juste voir trois exemples de prophéties messianiques dans l'Ancien Testament, et Zacharie décèle qu'elles sont en train d'être accomplies. Et il loue Dieu pour cette fidélité et cette constance. Vous connaissez la prophétie, la promesse qui avait été faite à Abraham, où quand Dieu dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix ». C'était une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et Zacharie discerne bien que cette promesse-là est en train de s'accomplir. Verset 73, « Ce qui arrive, c'est conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre ». Zacharie décèle que cette promesse est en train d'être accomplie. Jérémie 23, 5, Jérémie avait dit, « Voici les jours viennent où je susciterai à David un germe juste, et il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice, l'équité dans le pays. » Et Zacharie, il connaît cette promesse, il connaît cette prophétie, et il s'empresse de relever que le puissant sauveur qui vient est justement, verset 69, de la famille de son serviteur David. Il le voit. Dieu avait promis, c'est en train d'arriver. Effectivement, c'est bien de la famille de David. Dernier exemple, il pourrait en avoir beaucoup plus. Juste un dernier exemple, cette prophétie dite par Michée qui dit « Et toi, Bethléem, petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et celui dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Et Zacharie se rend compte que cette prophétie est en train d'être accomplie. Et de suite, il dit que c'est bien ce, verset 70 dans notre texte, que c'est ce que Dieu avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Il pourrait avoir beaucoup plus d'exemples de prophéties qui effectivement sont accomplies en Jésus. Mais Zacharie en révèle quelques-unes et il comprend que Dieu effectivement fait ce qu'il avait dit et qu'il est fidèle à lui-même et à sa parole. Dieu n'est pas un homme pour revenir sur sa décision. Nous revenons des fois sur nos décisions. Dieu, jamais. Et je fais une petite parenthèse. De même, dans nos vies, soyons prompts à regarder en arrière pour discerner en quoi ce qui se passe aujourd'hui est peut-être la réponse à une prière ou à une promesse qui nous a été faite ou que nous avons fait de prière. Sachons aussi discerner dans les temps présents comment Dieu répond à des prières passées ou des promesses passées. Et à l'image de Zacharie, bénissons Dieu en retour, louons-le pour cela. Pourquoi Dieu nous sauve-t-il donc ? Par bonté, premièrement, et deuxièmement, par fidélité. Car Dieu est bon et Dieu est fidèle. Gardons ces vérités dans nos cœurs. Deuxième partie. De quoi Dieu nous sauve-t-il en Jésus? De quoi nous sauve-t-il? Et de nouveau, Zacharie, inspiré par l'Esprit, a de nombreuses choses à nous apprendre, ou du moins à nous réapprendre, mais que nous avons besoin de réapprendre. Alors la semaine dernière, Bernard Rousseau, qui avait prêché ici, avait déjà vendu la mèche en parlant un peu de ce texte, en disant qu'Israël avait toujours été effectivement un peuple opprimé, un peuple isolé, et que donc la plupart au sein d'Israël attendaient un roi, un guerrier, un chef militaire, de quoi les débarrasser de ses ennemis romains à cette époque. Et verset 71, Zacharie dit « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de ceux qui nous détestent. » Voilà ce que dit Zacharie. Et dans un certain sens, ne lui jetons pas la pierre, il est légitime de vouloir se débarrasser de ceux qui nous font du mal, légitime de vouloir se débarrasser de nos ennemis, légitime de vouloir d'être en paix, tout simplement, non plus sous le joug d'un César ou d'un roi ou d'un dictateur. Et peut-être que Zacharie avait peut-être aussi cela au fond de lui. Mais n'empêche que, inspiré par le Saint-Esprit, Zacharie recentre la discussion et prophétise clairement ce pourquoi son fils, Jean, vient de naître. Je vous propose de relire versets 76 et 77 de notre texte. « Et toi, petit enfant, » donc il parle de son fils, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, et tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. » Alors Jean n'est pas là en tant qu'espion, Jean n'est pas là en tant que commando qui viendrait préparer le prochain coup d'État de Jésus, loin de là. Mais au contraire, Jean vient pour apporter la connaissance du salut, comment ? Par le pardon des péchés. Voilà de quoi le peuple a réellement besoin. Voilà de quoi le peuple a réellement besoin d'être délivré de ses propres péchés, de ses propres erreurs, de sa propre faiblesse, plutôt que de l'occupant romain. Et voilà pourquoi Jean deviendra Jean le Baptiste et prêchera la repentance des péchés, symbolisée par le baptême d'eau, nous connaissons. En faisant cela, en indiquant que c'est de nos péchés, de nos impuretés, de nos fautes, de nos rébellions que nous avons besoin d'être délivrés, Jean-Baptiste prépare effectivement les chemins du Seigneur, verset 76. Jean le Baptiste vient rappeler le diagnostic, le problème, le nœud du problème, et Jésus, quant à lui, il viendra surtout régler ce problème et y remédier totalement en sa mort rédemptrice et en sa résurrection salvatrice. Quand il y a le bon diagnostic, alors c'est déjà plus facile d'avoir le bon remède, n'est-ce pas? Et voilà ce que vient faire Jean-Baptiste. Voilà ce dont vient rappeler Jean-Baptiste. Aujourd'hui, ce message, il est encore d'actualité. Ça date de 2000 ans, mais il est encore d'actualité. Et il nous faut encore se rappeler que la priorité de Dieu est avant tout de délivrer des hommes et des femmes, de racheter, de transformer des hommes et des femmes pour sa gloire et pour leur bonheur. Alors aujourd'hui, de ce que je sache, nous ne sommes plus occupés par les légions romaines. Mais il peut parfois être tentant d'attendre de Dieu une autre délivrance, une autre intervention de sa part. Et je voudrais faire quatre petits liens avec l'actualité. Notre pays, depuis quelques mois, quelques années, est la cible de nombreux terroristes. Et il nous faut prier pour cela. Vraiment, il nous faut prier pour cela. Mais notre espérance en Dieu ne doit pas s'arrêter à ce sujet. Notre espérance en Dieu ne doit pas s'arrêter à ce sujet. Tout comme Israël avait peut-être une espérance que contre les Romains, peut-être, mais le vrai problème était ailleurs. De même, nous ne devons pas nous arrêter à ce sujet. Deuxième lien avec l'actualité, notre planète, vous l'avez suivi avec les médias, notre planète est sujette à un fort dérèglement climatique avec des conséquences imprévisibles. Et c'est le sujet de la COP21 qui a lieu actuellement. Et il nous faut prier pour cela, il nous faut agir. C'est notre responsabilité. Mais notre foi, notre action, notre intercession ne doivent pas se limiter à cela. L'Évangile est bien plus grand que cela. Aujourd'hui, vous l'avez suivi, c'est le premier tour des élections régionales. C'est notre devoir en tant que citoyen de voter, en tant que chrétien de prier pour nos autorités. Mais notre espérance n'est pas là. Elle est plus grande. Elle n'est pas dans le changement de notre société publique, mais dans le changement du cœur des hommes et des femmes qui composent cette société. Et cela grâce à Jésus. Dernier point plus personnel dans nos vies. Certaines circonstances sont parfois un peu compliquées. Ou alors si c'est pas le cas chez vous, tant mieux. Mais certaines circonstances des fois sont compliquées et on aura envie d'un petit coup de pouce de la part de Dieu sur tel ou tel sujet. On peut prier pour cela, c'est notre droit, un peu comme la parabole de la veuve avec le juge qui insiste, et Dieu sera libre d'y répondre comme il le souhaite. Mais notre confiance et notre espérance ne doivent pas se cantonner à cela. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'insiste, aucun sujet ou aucun problème n'est trop grand pour Dieu ou ne l'intéresse pas Dieu. Mais Dieu conduit avant tout l'histoire, avant tout pour racheter des hommes et des femmes de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Alors ayons une espérance fidèle à sa parole et fidèle à ce qu'il a promis et n'exigeons pas de lui quelque chose qu'il n'aurait pas promis. N'exigeons pas quelque chose de lui qu'il n'aurait pas promis sur tel ou tel sujet. Donc de quoi, pour conclure cette deuxième partie, de quoi Dieu nous sauve-t-il ? Il nous sauve avant tout et premièrement de nous-mêmes, de nos péchés, de notre incapacité à obéir parfaitement, de nos cœurs sombres et endurcis. Et je peux vous faire le témoignage que l'état de mon cœur me désole plus que les grands problèmes de ce monde. Et je sais que c'est là que Dieu veut agir. C'est au plus profond de nous-mêmes que Dieu veut faire les plus belles transformations. Et c'est pour cela qu'il a envoyé un puissant sauveur en la personne de Jésus. Dernière partie, je vous propose avec ce cantique de Zacharie. Nous avons vu pourquoi Dieu nous sauve, par bonté, par fidélité. De quoi nous sauve-t-il ? Avant tout, de nos fautes. Et dernière partie, pourquoi nous sauve-t-il ? Dans quel objectif ? Pourquoi avec un espace ? Dans quel objectif nous sauve-t-il ? Est-ce que vous ne vous dites pas parfois, Dieu n'aurait pas élaboré un si grand plan de salut si c'était seulement pour dire, c'est bon, un tel est sauvé, un tel sur le livre de vie, c'est bon, j'ai fini mon job, leurs péchés sont rachetés. Est-ce que le plan de Dieu s'arrête à ça ? C'est bon, péché racheté, personne suivante. Zacharie, inspiré par l'Esprit, nous apporte de nouveau deux éléments de réponse. Le premier, Bernard Rousseau nous l'a encore évoqué la semaine dernière, donc je vais être bref, c'est le verset 79 qui nous le dit, c'est pour diriger nos pas sur le chemin de la paix, pour qu'il n'y ait de nouveau plus aucun obstacle entre le Créateur et sa créature. Et donc si Jean-Baptiste est venu avant Jésus, verset 79, c'est bien pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Et donc on l'a vu en la partie 2, je vais être bref, en annonçant donc la nécessité d'une repentance individuelle, Jean-Baptiste préparait bien le chemin à Jésus qui allait confirmer cette nécessité et puissamment y résoudre le problème en le prenant sur lui à la croix. Ça, c'est l'évangile, j'espère, que nous connaissons tous. L'évangile que nous nous rappelons dimanche après dimanche. L'évangile que nous allons annoncer haut et fort la semaine prochaine à la fête de Noël. L'évangile que nous allons proclamer en mars, lors de notre semaine d'évangélisation. Mais l'évangile ne s'arrête pas là. Ne s'arrête pas là. Non seulement des convertis, mais des disciples. Non seulement des convertis, mais des disciples. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés ? Versets 74 et 75 de Luc 1. Afin de nous accorder de pouvoir le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la justice, tous les jours de notre vie. Je répète, il nous a sauvés afin de nous accorder le pouvoir de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la justice, tous les jours de notre vie. Ces versets contiennent des vérités extraordinaires pour nos vies. Pouvoir le servir sans crainte. Pouvoir. Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse le servir. Nous n'avons pas été sauvés pour simplement, après ça, pouvoir dire « c'est bon, c'est fait », se croiser les bras, regarder tranquillement ce qui se passe autour de nous. Non pour avoir le droit à des bénédictions supplémentaires. Avoir des bénédictions en plus que les autres, comme si c'était Dieu qui était à notre service à partir de ce moment-là. C'est nous qui sommes à son service. Et c'est pour pouvoir qu'on puisse le servir que Dieu nous a sauvés. Voilà ce que nous rappelle Zacharie. Servir, qu'est-ce que ça veut dire? La liste est longue. Premièrement, obéir à sa parole. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Aimer son prochain. Aimer ses frères et sœurs. Utiliser les dons dont il nous a équipés, etc., etc. La liste est longue. Mais Dieu, s'il nous a sauvés, il attend désormais de nous les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et cela, le servir, non dans la crainte, mais le servir sans crainte, sans peur, sans crainte que l'amour de Dieu va soudainement baisser ou augmenter en fonction de notre service, sans redouter que Dieu nous demanderait plus que ce qu'il nous demande de faire. Voilà pourquoi Dieu nous a sauvés. Non pour qu'on se croise les bras, mais pour qu'on puisse le servir sans crainte. Deuxièmement, Dieu nous a sauvés pour qu'on marche dans la sainteté et la justice. Verset 75. Marcher dans la justice, dans la sainteté et la justice. Pour qu'on puisse lui être fidèle, pour qu'on puisse marcher à ses côtés, à sa ressemblance, dans la sainteté et la justice. Et regardez la fin du verset 75. Tous les jours de notre vie. Vous lisez avec moi, hein. C'est pas écrit un jour par semaine, le dimanche matin de 10 à 12 seulement, 5 minutes par jour, ça suffit largement. Non. Fin du verset 75. Tous les jours de notre vie. Dans l'idée de sainteté, il y a l'idée de notre être intérieur qui doit être fidèle, sans souillure, sans compromis envers Dieu. Et dans l'idée de justice, il y a l'idée que notre être extérieur doit être pleinement consacré à Dieu et faire les actions que Dieu a préparées, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. L'intérieur, l'extérieur, Dieu veut tout de nous. Éphésiens 4 nous dit exactement la même chose. Éphésiens 4, versets 23 et 24. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et qui se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Mais on vous a appris à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la sainteté et dans la justice. Et je me permets de nous poser une question un peu plus personnelle. Nous qui disons avoir été sauvés en Jésus-Christ, est-ce bien notre cas? Servons-nous Dieu réellement? Servons-nous-le sans crainte? Ou alors le faisons-nous par légalisme ou pour faire plaisir à quelqu'un? Marchons-nous devant lui ou tout seul tranquillement dans notre vie? Notre vie intérieure se caractérise-t-elle par de la sainteté? Et notre vie extérieure se caractérise-t-elle par de la justice, par les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous? Et cela, de temps en temps, le dimanche matin, 5 minutes par jour, ou au contraire, tous les jours de notre vie? Veillons à ne pas nous arrêter à la première moitié de l'évangile, si j'ose dire, de faire de nous des convertis, des rachetés. Mais n'oublions pas que Dieu nous a rachetés et délivrés, c'est pour faire de nous avant tout des disciples qui le servons sans crainte et qui marchons devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Et si Dieu attend de nous cela, c'est pas simplement pour nous embêter, c'est parce qu'il sait que là-dedans réside notre bonheur à sa ressemblance et que c'est ainsi que ça gloire sera manifestée en nous. Alors, laissons-nous encourager par ces paroles, laissons-nous bousculer s'il le faut, acceptons de nous repentir devant Dieu s'il le faut également, mais en retour, acceptons sa grâce, acceptons son pardon et remettons-nous en marche une nouvelle fois devant lui. Là sera notre bonheur et là sera manifestée sa gloire. Ma conclusion sera brève et ne sera qu'un rappel de ce que nous avons pu redécouvrir avec le cantique de Zacharie et ses trois questions, rappelez-vous. Pourquoi, de quoi, pourquoi? C'est la période de l'Avent, nous n'avons pas encore décoré la salle, mais c'est la période de l'Avent de Noël, c'est des périodes de fête, de réjouissance, et c'est l'occasion de s'émerveiller de nouveau devant la bonté et la fidélité de Dieu, devant notre Sauveur Jésus-Christ qui nous a délivrés du plus grand ennemi qu'il soit. Et c'est tout ce que je vous souhaite, chers frères et sœurs, pour les semaines à venir, que ce soit seul ou en famille. Mais cette période de Noël, avec le texte de Zacharie, c'est aussi l'occasion de nous rappeler ce pourquoi Dieu nous a délivrés. Et donc à nous, en retour, de nous examiner et de demander l'aide de l'Esprit-Saint pour le servir sans crainte, pour marcher devant lui, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. C'est tout ce que je vous souhaite pour les semaines à venir. C'est aussi ça, Noël. Prions. Éternel, nous te bénissons parce que tu nous as visités et tu nous as rachetés en Jésus-Christ. Seigneur, tu l'as fait par bonté parce que tu es bon. Tout en toi, Seigneur, est bonté. Il n'y a pas une pointe de ténèbres en toi dans tes décisions ou tes actions. Et Seigneur, tu nous as rachetés par bonté et par fidélité. Tu l'avais dit, Seigneur, tu l'avais promis dans les temps anciens. Et Seigneur, aucune de tes promesses, aucune de tes prophéties, aucune promesse n'a été oubliée. Et Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es un Dieu fidèle. Et quand tu dis quelque chose, tu le fais. Béni sois-tu pour cela. Seigneur, nous voulons te remercier également parce que tu nous as délivrés du plus grand problème qu'il soit, du plus grand ennemi qu'il soit. Il y a bon nombre, Seigneur, de problèmes dans nos vies, dans notre société, dans nos pays. Mais avant tout, Seigneur, ce dont tu es le plus grave, ce dont tu es venu résoudre, c'est avant tout l'état de nos cœurs, endurcis, sombres, rebelles. Et Seigneur, béni sois-tu parce que tu as puissamment répondu en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Nous voulons te louer pour cela. Et Seigneur, nous voulons te prier, te demander de l'aide pour faire de nous non seulement des convertis, mais des disciples qui te servent, qui te suivent, qui marchent devant toi dans la justice, dans la sainteté, de tous les jours de notre vie. Seigneur, combien nous nous sentons faibles devant cela, combien nous nous sentons incapables. Et Seigneur, nous te demandons ton aide, ton Esprit Saint à notre secours pour transformer nos vies à ton image. Seigneur, nous te prions cela pour ces périodes de Noël, que tu puisses rappeler ces vérités toujours plus au plus profond de nos cœurs et de nos vies, et que tu sois glorifié en retour. Amen.